Donc d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir donné l'opportunité de présenter cette méthodologie qui concerne une approche pour intégrer différentes échelles de temps, essentiellement dans ce travail, en écologie marine, dans le contexte de l'exposé, mais comme c'est un aspect méthodologique, on peut le transposer évidemment à d'autres types d'écosystèmes. Alors, rapidement, chose que un grand nombre d'entre vous connaissent bien, il y a énormément de niveaux d'organisation dans un écosystème, en partant de la molécule jusqu'à l'écosystème. Et aujourd'hui, on utilise bien sûr la biologie moléculaire aussi en écologie. Et donc, vous avez sur la gauche les niveaux d'organisation et sur la droite les disciplines qui s'intéressent à ces différents niveaux d'organisation, avec bien sûr des interactions entre les différentes sous-disciplines. Alors, en quelques mots rapidement, quand on s'intéresse au fonctionnement d'un écosystème, c'est généralement soumis à un ensemble de contraintes, de perturbations qui sont d'origine naturelle ou anthropique. Et ces perturbations, elles vont bien sûr affecter les organismes vivants qui sont dans l'écosystème. Et donc, suite à ces perturbations, l'écosystème est en permanence dans un régime transitoire. Et ces organismes vivants, suite à ces perturbations, par exemple augmentation de la température ou diminution de la température, vont avoir des métabolismes qui vont varier et vont répondre à ces perturbations. Donc on a un effet rétroactif de ces organismes vivants sur les sources de perturbations sur l'écosystème. Alors, évidemment, pour essayer de traiter cette complexité de l'écosystème induite par tous ces niveaux d'organisation, on peut essayer de comprendre comment sont organisés ces niveaux d'organisation, et ils sont souvent organisés selon les axes spatio-temporels, de la manière indiquée sur le graphique qui est à l'écran. Donc souvent, les cycles qui sont à l'échelle de la cellule, par exemple, sont beaucoup plus rapides que les cycles de population ou les cycles qu'on peut rencontrer à l'échelle de l'écosystème. Alors, un petit exemple pour illustrer ce que je viens de dire dans le cadre d'un écosystème marin. Un écosystème marin intègre des bactéries jusqu'à des baleines et fait intervenir des processus physiques qui jouent sur des échelles d'espace très grandes et donc sur des échelles de temps très grandes. Donc, vous voyez, on part du micron et on va intégrer des processus qui vont jusqu'aux milliers de kilomètres. Donc, tout ça interagit évidemment dans un écosystème marin. Un petit schéma pour vous illustrer sur un exemple particulier sur les habitats des poissons, la relation qui existe entre le temps et l'espace. Donc vous avez sur l'axe horizontal une échelle spatiale qui correspond à la taille de l'habitat correspondant à une fonction, et sur l'axe vertical, le temps qui correspond au temps caractéristique, à la durée, au cycle, la durée moyenne caractéristique du processus. Par exemple, la reproduction va être un processus qui se mesure sur l'échelle de temps de l'année, et la niche ontogénétique correspondante est de l'ordre de la dizaine de kilomètres. Donc il y a une relation entre les processus temporels entre les échelles temporelles et l'échelle spatiale, comme je l'avais mentionné. Alors, comme je l'ai dit, si on veut s'intéresser à la compréhension d'une perturbation sur un environnement marin, par exemple, il faut comprendre comment cette perturbation va agir jusqu'à l'individu, voire jusqu'à la physiologie ou au métabolisme individuel. Et donc, on voit de plus en plus de modèles qu'on appelle des modèles énergétiques qui s'intéressent à la description du fonctionnement d'un individu et aux effets de perturbations environnementales sur l'individu. Alors évidemment, quand on veut essayer d'intégrer ça dans un modèle d'écosystème, en théorie, ça voudrait dire qu'il faudrait décrire tous les organismes vivants, en tout cas les groupes d'organismes vivants dans l'écosystème, de cette manière-là. Donc si on fait un modèle de ces choses-là, vous allez avoir un modèle qui va prendre en compte la nourriture à gauche de l'organisme considéré, ou les nourritures en général. Et bien sûr, à l'intérieur de l'organisme, il va y avoir un certain nombre de variables qui vont décrire, par exemple, les réserves, il peut y en avoir plusieurs, la structure, c'est-à-dire la biomasse structurale de l'organisme, le nombre d'œufs, etc. Donc un organisme va être décrit par un ensemble de variables, et donc quand vous avez beaucoup d'organismes correspondant à des groupes différents, vous avez évidemment des modèles qui ont un grand nombre de variables. Tout ça est généralement inscrit dans un réseau trophique. Donc vous avez, en plus de ce niveau de complexité que j'ai décrit sur le transparent précédent, la complexité induite par le fait que vous avez des interactions entre les populations. Et les biogéochimistes, qui sont des gens qui s'intéressent au cycle des éléments. Donc évidemment, quand on s'intéresse au cycle des éléments, on essaie de comprendre le rôle de ces organismes vivants, des organismes vivants sur ces cycles. Eux considèrent que toutes les populations, vous avez un certain nombre d'exemples ici, je vais juste en citer un. Ici, par exemple, les bactéries sont représentées par un pool de carbone, un pool d'azote, etc. Donc c'est une façon très simplificatrice de représenter ce qu'est une bactérie, évidemment. C'est un modèle de biochimie. C'est pour vous juste pour vous illustrer la complexité d'un modèle de biogéochimie. Et actuellement, en modélisation, on rencontre les approches suivantes, c'est-à-dire en fonction du niveau d'organisation, sur la gauche, vous avez des familles de modèles sur la droite. Donc on va avoir par exemple des modèles individus centrés, comme celui que j'ai présenté précédemment avec la réserve, la biomasse structurale, etc., le nombre 2. Ça s'appelle un modèle individu centré. Et on va aller jusqu'à des modèles type qu'on appelle type NPZ pour nutriments, phytoplancton, zooplancton. Ou par exemple, dans cette description-là, il y aurait seulement 3 variables pour l'écosystème, pour pouvoir avoir une relative simplicité de l'écosystème. Et pour comprendre comment fonctionne cet écosystème, actuellement, les gens commencent à coupler un petit peu les différents types de familles de modèles que vous avez sur la droite, pour regarder comment ces modèles interagissent. Alors, ce qu'on appelle GLOBEC, c'est le nom d'un programme qui s'intéresse au changement global. C'est un programme européen. Et donc, j'ai listé ici un certain nombre de questions qui sont posées par ce programme européen actuellement. Par exemple, comment on peut représenter les structures biologiques dans les modèles trophiques ? Les structures biologiques, donc, ça va des structures à l'intérieur des cycles de vie jusqu'à la description des groupes fonctionnels. Alors, les groupes fonctionnels peuvent être décrits de plein de façons différentes, par exemple à l'aide d'outils moléculaires ou à l'aide de descriptions sur les relations trophiques entre les organismes. Ensuite, on va s'attacher, sur le troisième point, à essayer de trouver un compromis. Et c'est là la méthode que je vais vous décrire s'intéresse à ce troisième point plus particulièrement. Comment on peut trouver un compromis entre les détails nécessaires au réalisme du modèle et le compromis doit aussi s'intéresser à la nécessaire simplicité du modèle pour pouvoir en tirer quelque chose. Parce qu'évidemment, si on fait simplement du couplage de modèles avec 150 variables et 250 paramètres, le modèle ne nous apprend rien. En termes de biologie. Une dernière question posée par ce programme dans le contexte du colloque d'aujourd'hui. Comment prendre en compte une structure d'un grand spectre d'échelles spatiales et temporelles pour l'échantillonnage et pour la modélisation ? Et mon exposé se focalise sur la modélisation. Alors je vais parler rapidement de ce qu'on appelle l'agrégation de variables. Je pense que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc ça consiste en la chose suivante. C'est un concept qui a été introduit en écologie à partir de. Enfin, c'était un concept d'économie qui a été introduit en écologie dans les années 80 par un groupe de chercheurs de l'équipe de Simon Levin à Princeton, et qui consiste à dire la chose suivante. Donc, on considère qu'on a un modèle avec un grand nombre de variables, grand N, un nombre très grand. Et puis, on a un modèle donc, qui s'écrit, par exemple, l'évolution de X au cours du temps est égale à une fonction de X. Alors, la question est maintenant, si on a un grand nombre de variables dans le premier modèle, c'est parce qu'on essaie de mettre un certain nombre de détails qui permettent d'avoir une représentation réaliste du système. Et puis, on s'intéresse maintenant à un niveau macroscopique, on essaie de changer de niveau d'organisation. On va essayer de définir des variables qu'on appelle grand Y sur le transparent au tableau. Grand Y sont donc les macro-variables. Ce sont des fonctions. Dans l'article original de Levin, ce sont des fonctions des micro-variables. Les Y sont des fonctions des X. Et on a donc une équation, on peut calculer une équation pour chaque Y, on a donc un modèle pour les Y, mais en général, le modèle des Y dépend des X, évidemment, puisque les Y sont des fonctions des X. Alors on parlera d'agrégation de variables. Si on arrive à écrire les équations des Y simplement en fonction des Y, comme le nombre de Y est beaucoup plus petit, je ne l'ai pas dit, mais le nombre de Y, c'est petit n, c'est plus petit que grand N, on a réduit la complexité du modèle. Et on parle donc de modèle agrégé. Alors, plus particulièrement, parmi toutes les familles de méthodes d'agrégation de variables, celle dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une méthode qui s'appuie sur ce qu'on appelle la théorie des perturbations singulières et qui utilise le fait que, justement, dans les écosystèmes, il y a plusieurs échelles de temps. Alors, s'il y a plusieurs échelles de temps, on peut représenter le modèle comme je l'ai écrit au tableau. Vous avez une équation, au l'écran, pardon. Vous avez une équation pour x. X est un vecteur, donc un certain nombre de variables. Et y est un deuxième vecteur. Et le paramètre epsilon qui est dans la deuxième équation, c'est ce qu'on appelle un petit paramètre. C'est un nombre proche de 0 qui dit que la vitesse de y est petite. Donc, vous avez des choses qui varient rapidement et des choses qui varient lentement. Et bien sûr, tout ça interagit. Donc, dans l'équation du x, il y a du y. Et dans l'équation du y, il y a du x. Alors, généralement, il y a beaucoup d'articles en écologie où les gens utilisent ce genre d'idées sans utiliser de mathématiques, bien sûr, parce qu'il y a des idées assez intuitives derrière. Imaginons qu'on ait une variable x qui varie très rapidement et qui va vers une valeur d'équilibre. Bah, rien ne nous empêche de dire que, puisque x va aller rapidement vers sa valeur d'équilibre, il suffit ensuite de remplacer x dans la deuxième équation par sa valeur à l'équilibre. Et donc, on a réduit la dimension, puisque dans l'équation de y, il n'y aura plus que du y. X étant remplacé par sa valeur d'équilibre. Alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de techniques mathématiques qui sont en général assez compliquées, et puisque, a priori, les idées intuitives sont assez simples à trouver. Alors, rapidement, avant de vous donner un exemple qui illustre l'intérêt de ces méthodes mathématiques dans cette question-là, deux mots sur l'intérêt de ces méthodes pour les interactions top-down et bottom-up. Vous avez en haut, la première étape de la méthode qui consiste à dire effectivement, puisque epsilon est petit, on va dans un premier temps supposer qu'il est nul, c'est-à-dire que y varie tellement lentement qu'à courte échelle de temps on peut supposer qu'il ne bouge pas et qu'on a donc seulement une dynamique pour x, et x va donc aller vers une valeur d'équilibre qui est x étoile de y, évidemment, puisque y étant fixé, la valeur d'équilibre dépend de y. Et donc ici vous avez une expression mathématique qui vous montre qu'il y a un contrôle de y sur x, puisque si vous changez y, ben vous changez la valeur de x à l'équilibre. Donc il y a un effet de y. Y, ça va être la macro variable, donc ça va être la description du système à un niveau d'organisation supérieur. Il va avoir un effet sur l'équilibre atteint par la micro variable x. Ensuite, une fois que vous avez atteint l'équilibre, vous pouvez dire que vous pouvez remplacer x par sa valeur d'équilibre dans l'équation de y, et vous obtenez donc une équation qui ne dépend que de y. Et là, on a ce qu'on appelle le transfert bottom-up, c'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, on voit comment la dynamique de x va agir au niveau de y, c'est-à-dire comment la dynamique des micro-variables émerge au niveau y. Alors, sur un petit graphique, la méthode dont je vous parle, la méthode des perturbations singulières, elle s'intéresse à décrire dans l'espace des phases, donc à s'appuyer sur le fait que dans l'espace des phases, il y a des objets, quand on est SEM lent rapide, il y a des objets qui sont invariants, c'est-à-dire que si vous vous mettez dessus au départ, à t égale 0, ben vous restez dessus, et ces objets-là vont attirer la dynamique de l'ensemble de l'espace des phases. C'est-à-dire que si vous partez à l'extérieur de cet objet-là, vous avez tendance à vous en approcher. Donc, il suffit d'écrire la dynamique qui se passe sur ces objets invariants pour avoir une idée de la dynamique complète. Par exemple, voilà, sur ce dessin-là, vous voyez sur cette flèche ici, si on part au-dessus de l'objet invariant, on plonge dessus et après on le suit. Et donc, on a une description simplifiée de la dynamique complète, simplement en se focalisant sur l'ensemble réduit. Par contre, de temps en temps, ce qui se passe, c'est que vous arrivez sur des endroits où on n'a plus le droit de remplacer la variable rapide par sa valeur d'équilibre, et en fait on plonge sur une autre nappe qui va attirer. Donc ce graphique-là, ce que j'essaie de vous illustrer sur cette deuxième partie du graphique, c'est qu'il peut y avoir plusieurs objets invariants dans l'espace des phases, et que par moment vous allez passer de l'un à l'autre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi un effet top-down, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur le bord ici, l'équilibre rapide, x étoile y, change, ce n'est plus le même, c'est un autre x étoile de y qui apparaît. Donc vous avez un effet de la population totale y sur la macro-variable y, pardon, sur la micro-variable x. Alors je voulais vous illustrer sur un exemple relativement simple, sans rentrer dans le détail des équations, pourquoi on a besoin de techniques mathématiques pour faire ce raisonnement qui a l'air assez intuitif. Et l'exemple que j'ai choisi de vous présenter, c'est un exemple très simple où vous avez un système avec un prédateur et une proie, mais la proie a un refuge. Donc c'est le disque jaune. Et puis sur le disque vert, la proie est consommée par son prédateur. Et donc ce que je suppose, c'est que les deux disques sont des régions homogènes dans lesquelles je peux appliquer la loi d'action de masse. Donc j'ai un modèle relativement simple qui décrit les interactions proie-prédateur dans un milieu homogène. C'est ce qu'on appelle les équations de Lotka-Volterra. Et puis j'ai des migrations entre les deux sites que je note M1.2 et M2.1. Alors maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais m'intéresser non plus aux sous-populations N1 et N2, qui sont les populations de proies sur le site 1 et le site 2, et le prédateur, mais je vais m'intéresser, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la dynamique des populations totales à plus longue échelle de temps. Donc la population N, c'est, donc de proies, c'est N égale N1 plus N2, et on ne peut écrire évidemment le système sous la forme qui est encadré en rouge. Vous avez une variable rapide qui est N1 et deux variables lentes qui sont les populations totales N et P. Alors, c'est le même système que celui qui est écrit avant, sauf que je vous illustre avec des rectangles bleus et verts ce qui est rapide et ce qui est lent. Et j'utilise la technique simple qui consiste à dire, ben, puisque j'ai des choses qui sont rapides, c'est N1 est une variable rapide, je vais remplacer N1 par sa valeur à l'équilibre. Je fais un calcul, c'est un calcul d'équilibre. Et je vais remplacer cette variable N1 à l'équilibre, c'est-à-dire vous voyez que N1 à l'équilibre c'est N1 étoile, ça dépend de N. Je peux remplacer N1 et N2 par leur valeur à l'équilibre dans les équations qui sont encadrées en vert, et j'obtiens donc un système qui ne contient que deux équations, qui sont les équations lentes, qui est un système de Lotka-Volterra. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce système en rouge ait la même dynamique que le système complet. Si je fais une simulation numérique pour vous illustrer le résultat, vous voyez que ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que le modèle à trois équations donne la courbe bleue et le modèle à deux équations en rouge donne la courbe verte. Donc j'ai remplacé simplement quelque chose qui était rapide par sa valeur à l'équilibre de façon intuitive. Alors si je m'appuie maintenant sur la technique mathématique qui est décrite par la théorie des perturbations singulières, il me dit qu'il faut corriger le calcul un peu rapide que j'ai fait pour obtenir quelque chose qui marche beaucoup mieux. Donc ça veut dire que la méthode fonctionne, mais il faut utiliser les outils adéquats pour pouvoir l'utiliser. Et donc on a des méthodes mathématiques qui permettent de réduire la dimension d'un système à grande dimension à un système plus simple en utilisant les propriétés que je vous ai décrites. Je vais vous donner, pour terminer l'exposé, un exemple d'application de ce genre de méthode pour construire, par exemple, un outil qu'on appelle la réponse fonctionnelle en écologie, je vais dire deux mots là-dessus, et pour vous montrer comment on peut faire émerger des comportements individuels, par exemple, à l'échelle de la population. Donc je pense que ça rentre un petit peu dans cette idée de changement de niveau et de d'auto-organisation à l'échelle de la population. Donc vous avez à l'écran un modèle qu'on appelle le modèle prédateur-proie, toujours. Donc vous avez en haut, c'est l'équation X, c'est l'équation de la proie, et Y, c'est l'équation du prédateur. Donc ce que j'ai encadré en rouge, ce qu'on appelle la réponse fonctionnelle, c'est-à-dire le nombre de proies consommées par un prédateur par unité de temps. Et c'est quelque chose qui est assez important parce que ça mesure la quantité de matière qui va passer d'un niveau trophique au niveau trophique supérieur. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en écologie pour essayer de bien comprendre la forme de ces réponses fonctionnelles. Et ce qui est intéressant d'un point de vue des thématiques d'aujourd'hui, c'est que cette réponse fonctionnelle, elle agit à l'échelle de la population, puisque évidemment, c'est l'effet du prédateur sur la proie. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est typiquement fondé sur des propriétés individuelles, parce que ce sont des individus qui consomment, et la façon dont ils vont consommer dépend de leur métabolisme et de leur comportement. Donc c'est quelque chose qui est basé sur l'individu et qui agit au niveau de la population. Alors, la réponse fonctionnelle que j'ai utilisée dans le modèle précédent, hein, sur cette équation-là, c'est une réponse fonctionnelle qui s'appelle réponse fonctionnelle de Holling, qui a été décrite en 1959, qui est assez courante, donc c'est pour ça que j'ai utilisé celle-là. Et en plus, le mécanisme est simple, donc il va tenir sur un transparent. Ça s'appelle aussi équation du disque. Alors, le mécanisme donné par Holling, bien sûr, il n'était pas du tout donné dans ce formalisme-là, il était donné de façon heuristique, mais on peut lui donner un mécanisme formel. Donc l'idée de Holling, c'est de dire que les prédateurs vont avoir deux types de comportements. Soit ils sont en train de chercher une proie, soit ils sont occupés par la proie. Alors quand on parle d'occupation, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être simplement l'occupation parce qu'il faut il faut consommer l'organisme. Ça peut être une occupation simplement en termes de digestion, c'est-à-dire il faut du temps pour intégrer la proie capturée. Donc ce que j'appelle recherche et occupation, c'est tous les processus comportementaux et métaboliques qui permettent aux prédateurs d'assimiler sa proie. Alors, le mécanisme de Hollings dit que quand il y a beaucoup de proies, si X est grand, ben on trouve rapidement, donc on passe beaucoup moins de temps dans l'état recherche et on passe rapidement dans l'état occupation. Donc la flèche qui va de recherche vers occupation augmente quand X est grand. Par contre, le temps d'occupation, c'est toujours le même, par exemple, c'est le temps de digestion. Et donc la flèche qui va d'occupation à recherche, c'est une constante. Alors si on écrit ce mécanisme-là sous forme d'équation différentielle, et si on fait l'hypothèse que les changements de comportement sont plus rapides que la dynamique des populations, parce qu'un organisme va manger plusieurs fois dans sa vie, d'accord ? Donc il y a des échelles de temps caractéristiques entre les changements de comportement et la dynamique des populations. Si on fait ces hypothèses-là, on a un système avec deux échelles de temps ici, et on peut donc utiliser la méthode que j'ai décrite précédemment. On va s'intéresser au nombre total de proies, au nombre total de prédateurs qui est Y égale les prédateurs qui cherchent plus les prédateurs occupés. Le nombre de prédateurs qui cherchent va tendre vers quelque chose qui dépend des proies totales et des prédateurs totales. Et on trouve donc la réponse fonctionnelle de Holling. C'est le mécanisme qu'avait suggéré Holling, donc ce n'est pas très surprenant. Donc on fait émerger à l'échelle de la population la dynamique du comportement individuel que j'ai décrit dans le modèle. Et là, on peut donc écrire un modèle avec... Donc j'ai un modèle au départ à 3 équations. Je peux évidemment écrire un modèle à 2 équations. Et j'ai fait ça, mais au lieu de vous montrer les équations, je vous montre quelques simulations numériques obtenues avec ce modèle-là. Donc, rapidement, le modèle à 3 équations, je l'ai d'abord simulé dans l'espace des phases à 3 dimensions. J'ai 3 équations. Alors, ça ne se voit pas très bien. Je pensais que ça se verrait un peu mieux que ça. Mais en fait, la dynamique a lieu sur un objet à 2 dimensions. C'est une espèce de surface. Donc, vous avez un espace de phase à 3 dimensions. Mais avec les échelles de temps, la dynamique va se réduire à un objet à 2 dimensions. C'est pour ça que quand vous regardez sur le graphique de droite, en haut à droite, vous avez les proies et les prédateurs, les proies sur l'axe horizontal, les prédateurs sur l'axe vertical. Vous avez effectivement une dynamique en 2 dimensions, c'est-à-dire que si je simule le modèle à 3 équations, j'ai la courbe bleue, et le modèle à 2 équations me donne la courbe verte. Donc vous avez effectivement une convergence vers un cycle limite, vers une courbe fermée qui longe l'axe vertical. Et le dernier graphique, c'était donc on peut utiliser la méthode dans ce cas-là. Et donc le troisième graphique, c'était pour vous illustrer qu'on ne perd pas d'informations, évidemment, puisque la réduction ici, c'est quelque chose qui est... C'est l'utilisation d'un objet invariant dans l'espace des phases. Donc c'est-à-dire qu'on utilise une réduction qui est intrinsèque au système complet. Alors tout ça pour dire qu'on ne perd pas d'informations. Souvent, quand on fait de la réduction, quand on élimine des équations, on fait des approximations, des simplifications, bien sûr, on perd de l'information. Ce n'est pas le cas dans ce type de méthode, puisqu'on conserve toujours le fait qu'il y a une relation entre les micro-variables et les macro-variables, entre les micro-paramètres et les macro-paramètres. J'en ai pas parlé pour des raisons de temps, mais on peut faire exactement la même chose pour les paramètres. Donc, on conserve une relation entre le niveau micro et le niveau macro. Et vous avez sur l'exemple, sur la dernière figure, au cours du temps, l'évolution du rapport entre le nombre de prédateurs, c'est la proportion de prédateurs occupés, par exemple, ici. Donc c'est une proportion, c'est un nombre entre 0 et 1. Et vous voyez que de temps en temps, vous pouvez voir un grand taux d'occupation, puis à nouveau, ça replonge vers 0, etc. Donc vous avez l'effet du cycle limite ici sur la distribution au niveau microscopique. Alors je vais terminer par une transparente conclusion. Donc, évidemment, quand on essaie de comprendre un système écologique, on doit intégrer un grand nombre de processus. J'ai surtout parlé des processus biologiques, mais bien sûr, il faut ajouter à ça tous les processus physiques et chimiques qui interviennent dans un écosystème. Donc, il est absolument impératif maintenant de développer des méthodes d'analyse qui soient opérationnelles pour permettre d'aborder ces modèles mathématiques qui sont de plus en plus compliqués. Et ces méthodes-là visent à essayer de trouver des modèles relativement simples pour pouvoir en tirer une information conséquente. Ensuite, j'en ai pas parlé dans le détail, mais ces méthodes-là permettent aussi de développer des formulations qui sont adaptées, quand je parle de formulation, c'est-à-dire formulation mathématique qu'on va mettre dans un modèle, à partir de mécanismes, puisque si on a une idée des mécanismes, on peut les intégrer sans augmenter la complexité des systèmes. Donc on essaie de construire des formulations qui sont adaptées aux modifications permanentes environnementales que subissent les organismes, pour pouvoir comprendre leurs réponses. Et enfin, ça nous permet de mieux appréhender le rôle des organismes vivants dans le fonctionnement des écosystèmes. Je vous remercie de votre attention.